Radio Capi, grand témoin. Avec le même plaisir pour le même devoir, grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jean-Paul Dietrich, porte-parole militaire de la mission des Nations Unies au Congo. Jean-Paul Dietrich, bonjour.
Ah oui, bonjour.
C'est vous notre grand témoin d'aujourd'hui. Vous avez travaillé dans la mission des Nations Unies au Congo comme porte-parole militaire et chef de l'information publique militaire. Je consulte le verbe au passé parce qu'aujourd'hui vous quittez la mission, mission dans laquelle vous avez passé 2 ans et 3 mois. Au cours de notre entretien, nous parlerons du travail que vous avez fait au sein de la mission pendant 2 ans et 3 mois. Mais avant d'y arriver, intéressons-nous d'abord à votre personne. Jean-Paul Dietrich, de quelle nationalité?
Bon, je suis suisse, allemand en fait, mais j'habite à Fribourg, qui est une ville bilingue, actuellement plutôt francophone. Mais au Moyen-Âge, on était un peu 50-50%.
Vous êtes né où et quand, Jean-Paul Dietrich?
Je suis né à Sarnen, c'est un petit village. Dans la Suisse centrale, donc vraiment le centre des trois cantons qui ont composé la Suisse en 1291 avec la nouvelle constitution. Et après, notre famille a déménagé dans le canton de Fribourg, qui, comme je vous ai dit, est un canton francophone. Et j'ai fait toutes les études dans cette région, mais entre-temps, je suis aussi très souvent parti à l'étranger. Donc, j'ai fait presque 9 ans à l'étranger.
Vous aimez les voyages?
J'aime les voyages et aussi j'aime beaucoup le travail à l'étranger.
Vous avez une licence en économie et un master en administration publique de quelle université?
Bon, l'une c'était Fribourg et l'autre c'était Lausanne.
Et comment vous vous retrouvez dans l'armée, Jean-Paul Dietrich?
Comme vous le savez, tous les Suisses sont censés de faire l'armée quand ils ont 20 ans. Donc, moi, au lieu de rester soldat comme la plupart, j'ai aussi continué mon service d'avancement. J'ai consacré beaucoup de temps de ma jeunesse, au lieu de m'amuser pour d'autres choses, ou bien des loisirs, j'ai quand même fait presque 3 ans au sein de l'armée, si on compte tous les services d'avancement.
Et Jean-Paul Dessé, est-il marié?
Oui, je suis marié avec une femme de la Corée du Sud. On va peut-être revenir après pourquoi ce lien. Et j'ai un enfant de 17 ans, Lucas.
Après vos études universitaires, vous avez travaillé dans plusieurs ministères dans votre pays. On peut connaître les ministères?
Bon, c'est vrai. Hein. En effet, j'ai d'abord commencé dans la gestion du ministère des Armées et des Défenses. Et après 5 ans dans cette fonction, je suis la première fois partie à l'étranger. Donc, j'ai assumé la fonction de délégué dans une mission que la Suisse a depuis 1953, vous imaginez. Depuis la guerre de la Corée, entre les deux Corées, on est présent sur la frontière entre les deux Corées. Donc, je faisais partie de cette mission de surveillance d'armistice une première fois. Et quand je suis revenu, après une année, plus ou moins, j'ai repris une fonction au ministère de la Justice et Police, où je suis resté presque pendant 15 ans. J'ai eu plusieurs fonctions, entre autres aussi dans la surveillance des marchés financiers. Mais en 2002, en effet, j'ai eu la chance de faire le concours comme attaché de défense. Et donc, je suis parti 4 ans en Russie. Avant, dans cette fonction au ministère de la Justice, j'ai encore fait 2 autres missions. Une en Namibie, où les Nations Unies ont accompagné...
Là, c'est lorsque vous avez quitté les ministères de la Justice, où vous avez effectué toutes ces missions.
Vous savez, dans ce temps-là, l'employeur, il était très favorable à ces missions, donc il m'a donné un congé non payé. Donc je suis parti et j'ai repris ma fonction au ministère de la Justice. J'ai eu une fois fait 5 mois en Namibie et encore plus tard, j'ai encore fait une année au Proche-Orient où j'ai servi comme observateur militaire d'abord et après encore 6 mois comme chef d'opération au sein de l'UNSO, qui est la première mission des Nations Unies le maintien de la paix.
Et là, vous avez passé combien de temps?
En tout, donc une année, 6 mois en Syrie et 6 mois en Israël.
Vous étiez déjà marié ou encore célibataire? Parce que ça devrait être difficile pour votre petite famille.
En effet, vous savez, cette mission est la seule où la famille a pu nous joindre. Bon, c'était dur pour mon petit-fils parce que surtout pendant les premiers 6 mois, j'étais tout le temps absent. J'étais observateur sur les eaux du Golan. Donc, chaque fois quand mon fils voyait l'uniforme, il a pleuré parce que ça voulait dire pour lui que...
Papa est en train de partir.
Il va partir, il va rester 7 jours. Il a pris toute sa nourriture avec et il l'a préparé avec son ami officier qui était d'une autre nationalité. Dans un container, c'était aussi une expérience très intéressante. Donc, après 6 mois en Syrie, comme j'ai déjà dit avant, on est parti à Jérusalem, ville aussi très fascinante, où mon fils il a fait quelques pas déjà dans le jardin d'enfants français.
Vous avez rencontré votre épouse, c'est ça indiscret?
En fait, après mon séjour en Corée, j'ai toujours un peu suivi et j'ai participé à des manifestations culturelles en Suisse. Et finalement, donc, j'ai rencontré mon épouse en Suisse parce que ses parents ont travaillé à l'ambassade à ce temps-là. Donc, mais j'ai eu la possibilité de voyager en Corée du Nord plusieurs fois quand c'était encore possible. Donc, j'étais à Pyongyang, j'étais dans d'autres villes de la Corée du Nord. C'était vraiment une expérience aussi extraordinaire. C'était en fait un peu la fin de la guerre froide. Parce que dans cette délégation, il y avait 4 nations, 2 qui ont été proposées par les Nations Unies, qui étaient, dans ce conflit de la Corée, partie du conflit. Donc, les neutres, soi-disant, pour les Nations Unies, c'était la Suède et la Suisse, et du côté de la Chine et la Corée du Nord, on avait la Pologne et la Tchécoslovaquie. Donc, là, on sentait encore, dans les discours, le vent de la guerre froide.
De toutes les missions que vous nous avez citées là, la Corée, Namibie et puis au Proche-Orient, qu'est-ce qui vous a marqué dans toutes les missions?
Bon, chaque fois, le mandat était très différent et ma fonction aussi. Donc, dans toutes les 4 missions des Nations Unies, j'ai toujours eu une autre tâche. C'est ça qui était très fascinante.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Grand Témoin a le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Jean-Paul Dutrich, porte-parole militaire de la mission des Nations Unies au Congo. Jean-Paul Dutrich, c'est depuis 2007 que vous êtes au Congo, dans la mission des Nations Unies au Congo. C'était votre première fois d'arriver au Congo?
En effet, c'est la première fois. Donc, je suis arrivé fin décembre 2007. J'ai fêté Nouvel An ici. Et après, bon, j'ai eu effectivement...
Vous aviez déjà entendu parler du Congo avant d'arriver?
Chaque observateur militaire ou chaque officier qui part à l'étranger, il doit parcourir un petit cours d'introduction. Donc, il y avait les questions pratiques et aussi les questions liées au conflit. Pourquoi la MONUC et plutôt les Nations Unies sont présents? Quelle est la fonction exactement de la MONUC? Et aussi, quelle est la tâche du porte-parole militaire? On avait un porte-parole militaire déjà en 2002 et je crois qu'on avait aussi un porte-parole, plutôt un officier de l'information publique militaire à Kisangani, dans le contexte de la division qui existait encore à ce moment-là, qui couvrait toute l'Est.
Quelle était votre première impression en arrivant au Congo?
Bon, je crois qu'elle n'était pas trop différente de ce que mes collègues ont aussi rencontré. D'abord, le grand nombre de personnes qui bougent presque dans l'obscurité quand on arrive à l'aéroport. Beaucoup des jeunes gens, aussi un peu, bon, la pauvreté, les enfants sur la rue et tout ça. Et évidemment, c'est aussi une chose que une des seules choses que je n'avais, qui ne me manquera pas, c'est le mauvais état des routes à Kinshasa. Donc c'est surtout ça, les premières impressions. Mais heureusement, au fur et à mesure, on peut quand même découvrir beaucoup d'autres choses.
Vous avez sillonné toutes les provinces de la RDC?
Pas tout à fait. Donc, j'ai surtout voyagé dans les Kivu, notamment dans un contexte très concret avec ma fonction. Surtout en fin 2008, quand le CNDP et son chairman, le général Nkunda, ont monté toute une machine de propagande avec une centaine de médias présents à Goma. Donc là, je me suis déplacé 4 fois de suite pour donner aussi le point de vue de la MONUC. Donc, à part ça, j'étais en province orientale plusieurs fois, aussi au Bas-Congo et récemment en Équateur.
Vous êtes venu pour travailler dans la mission comme porte-parole militaire et chef de l'information publique. En quoi consistait exactement votre travail?
Surtout le début était très marqué par l'action du porte-parole militaire, parce que, comme vous le savez, sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il fallait vraiment commenter, expliquer au public tout ce qui s'est passé au point de vue sécuritaire. La fonction du chef de l'information publique militaire est aussi importante, mais j'ai plus d'assumer.
Délicate aussi?
Pardon.
Importante et délicate?
Délicate, non, délicate, c'est surtout la position du porte-parole militaire, parce que, en fait, je suis le porte-parole du commandant de la force. Et j'ai eu vraiment de la chance que le général Babacar Gaye m'a donné beaucoup de liberté. Il a vu comment j'assume cette fonction, avec aussi les points qui n'ont pas toujours plu, n'est-ce pas, à beaucoup de personnes. Mais j'ai senti que la population congolaise était contente d'avoir des informations francs. Et en fait, c'est ce qui est demandé des Nations Unies, parce que dans ma directive sur l'information publique militaire, on dit que les Nations Unies doivent maintenir un degré élevé de confiance et de transparence dans nos relations avec les médias. Donc, surtout en ce qui concerne l'information publique militaire, on a toujours essayé d'être objectif, franc, transparent, pour que surtout la population Kinshasa comprend le mieux possible ce qui se passe sur le terrain, pour expliquer finalement aussi ce qu'on fait sur le terrain, parce que ici, les Kinois voyaient seulement les voitures, devant les restaurants, nous promener, je ne sais pas comment, mais il y avait pas toujours une bonne compréhension de notre mandat. Et j'ai constaté que pendant ces deux dernières années, on aurait peut-être encore fait beaucoup plus en expliquant à la population de Kinshasa ce que la MONUC fait. On a commencé récemment avec beaucoup d'activités de outreach dans nos communes, avec la société civile. Et là, les gens ont dit « Ah oui, c'est ça ». Donc, il y a une grande surprise.
Quelle est la mission de l'information publique militaire?
Bon, là, on peut dire que, au point de vue militaire, l'information publique militaire est également destinée à soutenir le concept des opérations et aussi de nous assurer la liberté d'action de la force qui est sur le terrain et surtout de gagner le soutien et l'opinion publique. Une autre tâche, c'est de gagner les cœurs et les pensées de la population, parce que ceci devrait être considéré comme un multiplicateur de la force. Et on doit toujours bien le maîtriser et l'intégrer dans toute opération militaire.
Est-ce que vous pensez que l'information publique militaire ou la branche militaire a gagné les cœurs des Congolais?
Bon,
la confiance.
Absolument. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font sur le niveau et au niveau régional. Donc nos collègues au Sud Kivu, au Nord Kivu, j'espère aussi en Ituri bientôt, on fait beaucoup d'actions en faveur de la population. Donc là, je crois, on a fait une tâche très importante, on a rempli une tâche très importante, et il faut le dire que l'information publique militaire est vraiment organisée, dirigée donc centralement, mais elle est exécutée au niveau régional.
Et comment vous jugez la situation sécuritaire depuis votre arrivée jusqu'à ce jour?
Bon, énormément de choses ont changé. On a vu l'acte d'engagement, on a vu les opérations Oudia en Oriental, Pimia 2 et maintenant à Manileo. Et on voit quand même un grand changement. Et surtout, au point de vue militaire, les FARDC sont de plus en mesure de maîtriser la situation, ce qui n'était pas le cas dans les accrochages ou bien les combats avec le CNDP. Donc l'armée s'est un peu repris. Elle a dû assumer une intégration rapide de dizaines de milliers d'anciens combattants. Elle opère avec des moyens logistiques qui ne sont pas encore adaptés à la mission, mais je crois qu'on doit avoir tout le respect aux FARDC, montrer tout notre respect, parce qu'avec ce qu'ils ont sur le terrain et comment ils sont organisés, ils font vraiment de leur mieux. Pour revenir aussi à mon deuxième chapeau, j'ai organisé plusieurs voyages avec les médias de Kinshasa à l'est, aussi en oriental, pour montrer sur le terrain ce que la MONUC fait.
Vous êtes satisfait de votre travail?
Absolument, c'était vraiment un privilège d'assumer cette fonction, même si elle était très exposée. Et bon, ce qui était peut-être un peu dur, c'est l'éloignement de la famille, mais je suis quand même rentré dans mon pays plusieurs fois. Avec la fonction, il fallait garder une certaine discrétion. On ne pouvait pas vraiment tout faire, en fait. Ce qu'on voulait aimer, on était un peu restreint dans les activités, peut-être aussi pour ne pas déranger le public et pour être un bon exemple comme premier militaire, ou bien militaire très exposé de la force.
Et est-ce que vous avez apporté quelque chose de nouveau au travail qui avait déjà été fait dans votre domaine?
Non, je crois que j'ai continué cet esprit qui a marqué en fait cette fonction assumée par les officiers français auparavant, et surtout sous la direction de Kemal Saïki, qui était aussi officier lui-même. Il a beaucoup apprécié ce rôle, bon, avec une autre approche qui est devenue beaucoup plus politique, surtout l'année passée. La fonction est devenue un peu plus compliquée. Donc, parce que la mission, à un moment donné, était très fideuse. Donc, aussi la communication est devenue très politique, avec une fois un œil sur le siège, un autre œil sur le gouvernement, pour plaire, mais avec le danger de devenir subjectif comme Nations Unies. C'est ça que j'ai beaucoup dérangé. Mais dans le contexte de mon travail, bon, on a sorti quelques publications, on a fait deux revues pour la force, on a aussi sorti d'autres publications pour la force. Et surtout, on a participé à fond dans des activités d'outreach, avec les collègues des affaires politiques et de l'information publique notamment.
Aujourd'hui, vous quittez le Congo pour d'autres fonctions ailleurs?
En fait, je vais reprendre une fonction au sein du ministère de la Défense, toujours dans le contexte de l'information.
Dans votre pays?
Dans mon pays, et je crois, malheureusement, je ne pourrai plus tellement partir dans d'autres missions parce que, normalement, à un certain âge, ça veut dire que j'ai quand même un certain âge qui empêche que je continue encore à faire plusieurs missions. Mais je suis très très content de ce que j'ai pu faire au sein des Nations Unies. Je trouve aussi la MONUC a été très utile pour ce pays. Et j'ai eu une tâche vraiment très fascinante. Et je remercie tout le monde qui m'a accompagné et qui m'a fait que je pars avec un sentiment très positif.
Quel est le plus beau souvenir que vous gardez du Congo?
Bon, c'est un peu le charme de la population, des enfants, des Congolaises et aussi des Congolais.
Juste le charme des Congolais et Congolaises?
Tout à fait le charme. Et malgré les difficultés qu'ils vivent, ils gardent une dignité qui est vraiment fascinante. J'aime beaucoup votre musique. Et tout ça va beaucoup me manquer. J'ai aussi beaucoup aimé, par exemple, participer à une messe à Notre-Dame de Fatima avec une chorale qui était fantastique. Donc, ça m'a toujours rassuré pour toute la semaine. Et donc, il y avait des événements. Il y a aussi la beauté de la nature qui est fascinante. Et bon, donc, tout le reste qui est monusien, qui est plutôt lié à l'ONU, ça on va plutôt oublier, mais tout ce qui était personnel, là on va garder le bon souvenir.
Parlons de la musique, vous dites que vous aimez la musique congolaise, vous connaissez quelques artistes congolais?
Bon, j'ai acheté quelques disques de Papa Bemba, bon après il y a M. Kofi qui est partout, n'est-ce pas? Il y a d'autres artistes qui sont vraiment aussi, que je connaissais mal leur musique, qui me plaisent beaucoup.
Qu'est-ce qui vous plaît de la mélodie? Est-ce que vous parlez lingala? Vous avez appris quelques mots du lingala?
Malheureusement, ça c'est peut-être un petit défaut, mais presque tout le monde parle de français, et c'est aussi une des facilités qu'on ne trouve pas normalement, nous donc les Suisses, dans une autre mission, quand j'étais au Proche-Orient, c'était impossible de communiquer avec la population. Mais pour nous, les Suisses, on se sent vraiment presque à la maison ici, parce que bon, vous savez, de la verdure, on parle la même langue, on peut aussi trouver la même nourriture, donc on se sent très vite à l'aise, à la maison au Congo. Donc,
Et donc, vous n'avez pas appris quelques mots du Lingala?
Bon, importer, c'est, je pense que c'est déjà un peu. C'est un peu tout. c'est le rythme, la douceur de la voix, aussi les hommes qui chantent en fait très haut, ténor et encore plus haut. Parce que moi-même, j'étais un chanteur à la chorale, dans une chorale en Suisse, et j'aime beaucoup la musique classique. J'aime énormément la musique classique, surtout les compositeurs russes.
Parlons des pères congolais. Qu'est-ce que vous avez découvert au Congo?
Bon, j'ai toujours un peu goûté ce qui était sur le plat, ce qui était disponible. Peut-être que je n'ai pas fait trop de découvertes, malgré le fait que j'ai de temps à autre participé à des buffets où vraiment on a essayé de servir toute la richesse de votre nourriture. Thank you.
Jean-Paul Dietrich, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, un mot de revoir?
Oui, un mot de revoir. Donc, je crois j'aurai les émotions quand je serai dans l'avion, quand je vais prendre l'avion. Et pour le moment, j'ai encore beaucoup de choses à faire, à dire au revoir à gauche et à droite, aussi à dire au revoir à la dernière conférence de presse où je participe, au public congolais, que j'ai beaucoup apprécié, et je pense qu'ils, à un certain moment, m'ont aussi apprécié.
Jean-Paul Dutry, je vous remercie et vous souhaite bon voyage, parce que vous prenez votre avion ce soir, et bonne chance dans vos nouvelles fonctions.
Merci beaucoup et tous mes meilleurs vœux à vous et à Radio Capi et à tous les gens qui m'ont écouté et qui étaient d'amis à moi et vraiment gentils avec moi. Merci beaucoup.
Merci, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous Jean-Paul Dutrich, porte-parole militaire de la MONUC, qui quitte la mission après 2 ans et 3 mois au service de la MONUC pour d'autres fonctions. Merci à Jean-Claude Ciala qui était à la technique au micro Kéline Côté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net sur la page de Grand Témoin où vous pouvez nous laisser votre commentaire, même si de programme sur la fréquence de la paix.